BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Edwige Chevrillon, Guillaume Paul.
Allez, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez comme tous les soirs dans Good evening business en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à vous.
Dans l'actualité ce soir, on a beaucoup de choses à commencer par cette question que beaucoup posent. Alors est-ce que c'est un mauvaise pub, est-ce que c'est un coup dur pour la place financière de Paris? On pose la question parce que ça y est, les actionnaires de Vivendi ont tranché. Vivendi va être scindé en plusieurs entités, dont Canal+ qui sera coté du côté de Londres et Havas du côté d'Amsterdam. On va voir ça dans un instant. On va bien sûr beaucoup en parler ce soir sur BFM Business. Un grand patron dans 10 minutes.
Bah justement, comme il est coté, je pourrais peut-être lui poser la question. C'est Olivier Andriès, directeur général de Safran. Lui, il a connu un petit coup de tabac là avant le week-end parce qu'il avait sa journée investisseur. Il nous dira comment rassurer ses investisseurs. On parlera de ce nouveau fonds européen. Et puis, est-ce que la France est en récession ou pas? Lui qui doit choisir où situer sa prochaine usine de freins carbone, à mon avis, c'est intéressant de connaître sa réponse.
Bah, c'est intéressant parce que ça nous ramènera à parler de cette étude de Trendéo qui est sortie ce matin, qui nous confirme que l'exode des entreprises...
La ruée vers l'ouest.
La ruée vers l'ouest s'accentue du côté des États-Unis. En France, ça marque le pas. D'où cette question, au passage, qu'on reposera aussi ce soir. Est-ce que le mouvement de réindustrialisation a vraiment commencé en France? On se pose toujours la question. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr, sur BFM Business.
À tout de suite.
Good evening business, le journal.
Donc non, il n'y a pas eu de suspense lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires de Vivendi qui a eu lieu cet après-midi à Paris à 97%. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
À 97%, les actionnaires ont dit oui au projet qui va donc scinder Vivendi en quatre blocs qui seront tous recotés en bourse dans la foulée, Mathieu, c'est ça?
Oui, exactement. L'Assemblée Générale a été vite fait, bien faite. 1h30 seulement, très peu de débats. Quelques questions, évidemment, des actionnaires, on va dire frondeurs. Il y en avait peu, mais il y en avait quand même deux, le fonds Siam et le fonds Fitrust, qui s'opposaient à cette scission, dont ils estiment qu'elle lèse les actionnaires minoritaires, dont ils font partie, bien évidemment. Quelques questions un petit peu délicates et gênantes, comme le retrait de C8 de la TNT, mais à part ça, rien à signaler. Les résolutions ont été votées donc effectivement à 97% et le groupe Vivendi donc va être découpé, scindé en quatre entités, puis avec des introductions en bourse à l'aide de Canal+ à Londres lundi prochain, la cotation d'Havas à la bourse d'Amsterdam cette fois également lundi prochain, et puis Hachette groupe qui va être en fait une société qui va chapeauter le groupe Lagardère déjà coté à la bourse de Paris, et puis toute une kyrielle d'autres participations. Ce grand Big Bang va avoir lieu donc lundi 16 décembre, lundi prochain, et quasi instantanément Vivendi sera mécaniquement sorti du CAC 40 avec l'entrée d'une nouvelle société. On ne connaît pas encore la réponse, mais le conseil scientifique d'Euronext se réunit jeudi prochain, donc on aura la réponse dans quelques jours.
Bon, bah, ça fait partie des questions. Est-ce que c'est un coup dur pour la place financière de Paris de voir et Havas et Canal+ quitter la place parisienne pour l'étranger? On posera la question. Et puis écoutez, puisque vous parliez du fonds Siam, effectivement, qui contestait cette scission, qui pèse quoi, 0,02% du capital. Écoutez sa cofondatrice Catherine Bergel tout à l'heure après l'Assemblée Générale.
Cette session n'est que dans l'intérêt du groupe Bolloré et les actionnaires minoritaires ont des miettes. Alors ils se contentent de miettes apparemment, mais pas nous. Et en plus, c'est un contournement de la réglementation française. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un problème financier, c'est aussi un problème de droit. Et c'est pour ça que nous avons fait une assignation et que nous allons continuer à nous battre sur le terrain judiciaire.
Voilà le fonds Siam qui ne désarme pas la cofondatrice Catherine Bergel tout à l'heure au micro de Nathan Cocampo. Autre grand titre dans l'actualité ce soir, cet énorme deal justement dans la pub, le plus gros de l'histoire du secteur. C'est le numéro 3, Omnicom, qui rachète le numéro 4, son compatriote Interpublic, pour plus de 13 milliards de dollars. Bonsoir Antoine Hollard, vous êtes à Washington, c'est le nouveau leader mondial du secteur qui vient d'émerger, Antoine.
Oui, ce rachat va donner naissance à un mastodonte qui va peser plus de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Dans un communiqué, le PDG d'Omnicom explique que ce mariage va stimuler la croissance. Alors c'est vrai que le nouvel ensemble sera en position de force pour négocier de meilleurs contrats, notamment les achats d'espaces publicitaires. Ce sera aussi une façon de mieux résister face aux géants de la tech qui aujourd'hui contrôlent plus de la moitié du marché. Du côté d'Interpublic, cette fusion tombe à point nommé. L'agence est en perte perte de vitesse. Elle a récemment perdu plusieurs gros clients comme Pfizer ou Coca-Cola. Tout cela intervient aussi dans un contexte où les deux agences ont pris énormément de retard sur l'intelligence artificielle. Alors, faut rappeler qu'il y a 11 ans, Omnicom avait essayé de fusionner avec Publicis. L'opération finalement avait capoté. Les deux groupes n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur le nom du futur patron. Cette fois, les choses sont claires. Le PDG d'Omnicom restera aux commandes de la nouvelle entité. Reste encore à obtenir le feu vert de l'autorité de la concurrence, dont la direction va changer avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Merci beaucoup Antoine. Antoine Hollard, donc à Washington pour BFM Business. Un mot de la situation en Syrie avec cette déclaration aujourd'hui du patron de l'OTAN. Il a déclaré, que je cite, que l'Iran et la Russie partageaient la responsabilité des crimes commis contre le peuple syrien. Plusieurs pays européens, par ailleurs, comme l'Allemagne, la Norvège, la Suède, ont dit aujourd'hui suspendre l'examen des demandes d'asile de réfugiés syriens. La France dit ce soir y réfléchir, en tout cas. 18h03, on reste en France, justement, avec cette fameuse loi spéciale qui va nous permettre d'éviter un shutdown au 1er janvier. Bonsoir Thomas
Sassou. Bonsoir Guillaume.
Elle est prête, cette loi, a dit ce matin Laurent Saint-Martin. Concrètement, il y a quoi dedans, Thomas, alors ?
C'est un texte très court, de quelques lignes seulement, parce qu'il n'y aura que 3, maximum 4 articles. Un pour autoriser l'État à prélever les impôts sur la base fiscale du budget 2024. Un deuxième article qui permet à l'Agence France Trésor de lever de la dette. Ouais. Je vous rappelle que la France est censée lever l'an prochain 300 milliards d'euros sur les marchés. Et enfin, un dernier article qui relève le plafond d'endettement de l'ACOS. L'ACOS, c'est l'organisme qui paye les prestations sociales, les retraites, l'assurance maladie, et qui tous les ans doit lever de la dette pour financer ses prestations. Il y a débat autour d'un quatrième article qui pourrait figurer dans cette loi pour financer la contribution de l'État à l'Union européenne et aux collectivités locales. À Bercy, on ne sait pas encore si ces deux dépenses, qui figurent tous les ans dans le budget, relèvent spécifiquement du budget 2025, et dans ce cas-là, il faudra attendre le prochain budget, ou alors si ce sont des dépenses habituelles, et dans ce cas-là, elles pourraient être conduites via la loi spéciale. Mais en tout état de cause, il n'y aura pas d'autres articles, donc 3, maximum 4. Toutes les mesures propre au budget 2025, typiquement l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, ne seront pas dans la loi spéciale et devront figurer dans le prochain budget.
Bon, et donc tout ça va se dérouler à partir, il faut que ça passe au Parlement vers le 18.
Mais dès cette... Alors non, mais elle doit être déposée au Parlement avant le 19 décembre pour être examinée avant la fin de l'année, ce qui veut dire qu'elle doit être déposée dès cette semaine auprès du Conseil d'État et du Conseil des Finances Publiques.
C'est jouable apparemment au point de vue timing, mais il faudra aller très très vite. Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Quelques mots d'entreprise avant d'aller sur les marchés. D'abord, on l'a appris il y a une demi-heure, la PDG de Suez, Sabrina Soussan, va quitter la présidence du groupe le 31 janvier prochain. C'est Thierry Deo, le patron du fonds d'investissement Meridiam, qui va reprendre la présidence du conseil d'administration du groupe dès le 1er janvier prochain. La Chine, il fallait s'y attendre, qui décide de se pencher sur le cas Nvidia. Les Chinois lancent une enquête sur le géant américain des puces pour violation présumée des lois anti-monopole. Peut-être une réponse à la décision la semaine dernière, vous savez, des Américains de restreindre les exportations vers la Chine de plusieurs métaux rares qui sont utilisés pour concevoir des puces et des panneaux solaires. Et puis cette annonce de BP qui n'est pas passée inaperçue. Le groupe pétrolier a dit aujourd'hui qu'il allait réduire ses investissements dans les renouvelables, je cite, de manière significative pour le reste de la décennie. BP, dont le cours de bourse est en retard par rapport à ses concurrents, avait déjà annoncé l'an dernier qu'il allait réduire la voilure sur le sujet. 18h06, on va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
On a commencé la semaine en hausse sur le marché parisien.
Ah oui, après une très très bonne semaine déjà, on poursuit à la hausse, plus 0,72% pour le CAC 40. On a même dépassé en séance les 7500 points. On a terminé à 7480. Et en gros, 8 séances de hausse consécutives, on n'avait pas vu ça depuis février. On revient sur les niveaux de fin octobre. Hein, pour un CAC 40, les choses vont beaucoup mieux et on voit qu'on surperforme alors très très nettement l'Eurostock 50 qui termine tout juste à l'équilibre, hein, plus 0,15, même moins 0,19 pour le DAX à Francfort. Mais évidemment, qui dit bonne nouvelle en provenance de Chine dit bonne nouvelle pour le secteur du luxe. Et c'est lui qui a été l'artisan de cette hausse hein, pour le CAC 40 tout au long de la journée. On termine en hausse de 0,8%, notamment pour Hermès qui cote à 2278 euros. Mais pas que, hein, on voit que la techno s'est bien comportée aussi. ST Micro qui signe la plus forte hausse du CAC à plus 0,94, 25,31 €. Secteur bancaire bien orienté aussi à plus 0,65 pour le Crédit Agricole, 13,12 €. Puis agitation dans le secteur de la pub et évidemment, tout ça a fait du bien à Publicis, hein, qui termine sur une hausse de 0,4% à 104,80 €. Les titres à la baisse, bon, Unibail, Rodamco, Westfield, moins 1,6%, 76,60 €. Thales, moins 1,4% à 139,80 €. Mais toujours une très bonne tendance à Paris, plus 0,72% pour le CAC, 7481 du côté de l'euro face au dollar, on cote à 1,0570.
Merci beaucoup Antoine, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, évidemment c'est la mi-séance, le Dow Jones qui perd 0,1%, 44 599 points. L'indice Nasdaq qui perd 0,4%, 19 772. Tout ça à la mi-séance, bien sûr. Il est 18h08. C'est donc Olivier Andriès, le directeur général de Safran, qui est l'invité d'Eddy Chevrillon. La grande interview dans deux petites minutes sur BFM Business. A tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est le patron de Safran, le directeur général, Olivier Andriès. Bonsoir Olivier Andriès.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. J'ai plein de questions à vous poser. Bien sûr, on reviendra sur votre journée investisseur. C'était juste avant le week-end. Un peu violent en bourse, on a trouvé que votre plan de vol était très timide. Vous direz comment peut-être le rebooster. Et puis avec vous, on parlera bien sûr de ce nouveau fonds de défense européenne. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou c'est le énième? Mais surtout, comment faire pour que l'Europe achète plutôt européen, voire français, que plutôt américain. Et puis, des questions évidemment sur Safran. Vos relations sont-elles enfin apaisées avec Guillaume Faury de chez Airbus? Mais d'abord, une question, je ne sais pas si vous avez lu l'interview du président du MEDEF, Patrick Martin, qui parle de récession à propos de la France. En fait, le titre est très en récession, il dit en légère récession dans ses propos. Est-ce que vous le ressentez? Après tout, Safran, vous êtes quand même un des plus grands groupes français.
Alors, je ne le ressens pas encore. Ceci étant dit, Safran est un groupe qui est exposé aux marchés internationaux,
oui, bien sûr.
En fait. Et donc, notre marché, il est international,
oui.
À la fois sur l'aéronautique, mais aussi sur la défense. Donc ce qui se passe en France, on le relativise, si vous voulez, en termes de santé économique.
Oui, enfin, sauf que vous avez quand même 50 000 personnes en France.
Oui, on y reviendra, Mais notre marché, il n'est pas de manière prédominante.
Non, mais donc, pour l'instant, c'est important.
Non, on ne le voit pas.
Parce que vous ne le voyez pas. Ben voilà, vous ne voyez pas de récession.
On ne le voyait pas.
Ce climat politique, d'abord, j'imagine que vous vous réjouissez du fait que le gouvernement de Michel Barnier soit tombé, parce que, du coup, il n'y a plus de budget 2025, enfin, made in Michel Barnier, si j'ose dire. Il n'y a plus de votre taxe, les surtaxes pour les grandes entreprises.
Ça nous sommes un acteur économique. On n'a pas à se réjouir de tel ou tel
événement politique. Oui, mais le résultat, ça fait quoi? Ça fait plus 500 millions dans vos caisses?
On verra ce qui arrivera. On verra ce qui arrivera. Alors, c'est vrai que le projet de loi tel qu'il était prévu, qui prévoyait donc d'augmenter les impôts pour les sociétés telles que le groupe Safran, ça avait un impact d'environ 500 millions pour nous.
Oui.
Bon, on verra ce qui se passera avec la nouvelle loi. On reste prudent parce que
ce climat,
les publics sont ce qu'ils sont.
Ce climat politique instable, ça a des répercussions déjà sur vos commandes ou pas?
Ça n'a pas de répercussions sur nos commandes, en réalité, qui sont mondiales. Ceci étant dit, une situation politique instable, ce n'est pas une bonne chose pour les acteurs économiques, évidemment.
Oui. Mais en même temps, là, on ne sait pas très bien ce qui va se passer sur les crédits pour le ministère de la Défense, on ne sait pas très bien ce qui va se passer pour la loi de programmation militaire. Ça fait beaucoup d'incertitudes pour quelqu'un qui, grosso modo, vous avez 20% de votre chiffre d'affaires qui est dans le militaire.
Alors, on a 20% de notre chiffre d'affaires dans le militaire. Une partie de ce chiffre d'affaires se fait à l'export, une partie se fait en France. Mmh. Alors, c'est vrai que si la loi spéciale est votée, elle reproduira en fait le budget 2024, alors que le budget 2025, tel qu'il était prévu auparavant, prévoyait une augmentation des dépenses dans le domaine de la défense. Donc il y aura une pression qui va s'exercer sur le ministère des Armées, et donc un impact sur les commandes en France. C'est
donc,
vrai.
Donc sur vous?
Donc potentiellement sur nous.
Oui.
Alors, à quelle proportion? Quels seront les arbitrages que le ministère des Armées va faire ou pas? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la position des responsables du ministère, mais il pourrait y avoir un impact globalement, effectivement, en France sur l'industrie de défense.
Tiens, juste une question sur le Rafale, parce qu'on va rappeler que vous faites les moteurs du Rafale. Vous avez vu Éric Trappier, qui est le patron du Rafale, qui dit que la production va monter en cadence 3, ça veut dire 3 Rafales par mois. Donc pour vous, ça fait 6 moteurs, si je sais encore compter. Vous pouvez suivre?
Oui.
Oui.
Et c'est une très bonne nouvelle. On est engagé dans une dynamique qui est très forte sur le Rafale, avec déjà plus de 500 avions qui ont été commandés à date. Donc ça fait plus de 1000 moteurs pour nous. Et effectivement, on est tout à fait prêt à monter à cadence 3, voire si plus tard la dynamique continue, pourquoi pas cadence 4 par mois.
D'accord. 4
avions, donc ça veut dire 8 moteurs pour nous.
Et donc vous nous dites là ce soir, moi je peux suivre et on est prêt. D'accord.
Bien sûr qu'on est prêt.
Bonne nouvelle en tous les cas pour Dassault. Ce nouveau fonds pour la défense européenne, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, si vous avez eu le temps de voir la déclaration du nouveau commissaire européen à la défense, Andrius Kubilius, qui souhaite un big bang dans les dépenses militaires de l'Union européenne pour faire face aux menaces. Il dit l'Europe doit trouver les moyens d'ici fin 2025 de financer des centaines de milliards d'euros dans la défense. Vous applaudissez ou vous restez sceptique?
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une prise de conscience en Europe sur la nécessité de se défendre et de s'armer face au contexte géopolitique que vous évoquiez tout à l'heure, et notamment l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, en fait, que l'Europe prenne conscience de l'importance, effectivement, d'avoir des budgets de défense. Aujourd'hui, quand on regarde au niveau européen, on est un peu moins de 2% du PIB qui est consacré aux dépenses de défense. Certains pays vont beaucoup plus loin, comme la Pologne, par exemple.
Oui, donc ça, c'est une bonne nouvelle.
C'est un, comme on dit, un wake-up call, c'est un réveil, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, l'autre réalité, c'est qu'aujourd'hui, 75% des dépenses réalisées par les pays européens dans le domaine de la défense sont réalisées pour acheter des équipements non européens.
Américains,
essentiellement,
quoi.
Essentiellement américains. Mmh. Et donc, la question, c'est s'il y a effectivement des budgets supplémentaires et des, comme vous dites, des centaines de milliards, puisque c'est effectivement ce à quoi pense la Commission européenne, est-ce que ça sera ouvert à tout vent, et notamment aux équipements étrangers et donc américains, ou est-ce que ça sera réservé aux équipements européens? Évidemment, côté français, on plaide pour que ces budgets soient consacrés essentiellement à l'achat d'équipements européens. Parce que c'est vraiment l'industrie de la défense européenne qu'il faut construire.
Et vous demandez quoi? Vous demandez un quota? Qu'est-ce que vous demandez, vous, Olivier Andriès? Vous dirigez un des plus grands groupes
On demande à ce que, simplement, les bénéficiaires de ces budgets européens qui seraient mis en place, ce fameux fonds, ce soient des industries européennes qui produisent en Europe.
Oui, avec des commandes européennes.
Des commandes européennes, oui. Et pas, donc, encore une fois, des achats d'équipements à tout vent.
Vous y croyez?
C'est pas gagné.
Oui, je vois votre sourire pour ceux qui ne regardent pas la télévision.
C'est pas
je
gagné.
Traduis, petit sourire, voilà, pas ironique, pas mais enfin un peu.
C'est une position qui est française. Principalement, elle n'est pas partagée par d'autres pays en Europe.
Oui, notamment les Allemands, pour ne pas les citer.
Elle n'est pas partagée par d'autres pays en Europe. Et effectivement, ce n'est pas du tout évident qu'on puisse effectivement avoir une majorité sur ce débat-là.
Il y a un autre débat. Alors, non, juste un point là-dessus. Parce que ce fameux avion de combat, le SCAF, qui est une espèce de oui, enfin, c'est un projet. Il devait avoir un grand sommet, ce mois-ci, je crois, du reste, entre la France, l'Allemagne et l'Espagne. Et visiblement, c'est repoussé au calendrier grec. Ça serait repoussé au mois de mars prochain. Le SCAF, c'est pas pour tout de suite, hein.
Oh bah de toute façon, l'avion de combat futur, c'est un projet au long cours, c'est un projet de développement technologique pour l'instant.
Mais est-ce que ça avance?
Avec un horizon qui est aux alentours de 2040. Donc c'est un projet qui est quand même assez long. Aujourd'hui, les équipes travaillent. On a des centaines de personnes qui travaillent sur ce projet. Nous, quand je dis nous, c'est l'ensemble de l'industrie française, allemande et espagnole, sur une phase qui va normalement prendre fin au printemps prochain. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on enclenche, est-ce que les pouvoirs politiques en France, en Allemagne et en Espagne enclenchent la phase suivante au printemps prochain?
Ça devait être ce mois-ci.
C'est ça la question. Donc c'est ce débat qui doit avoir lieu.
Et vous, donc visiblement, vous n'en avez pas entendu parler là, donc c'est pas enclenché ce mois-ci.
Cette phase suivante, à date où on parle, elle n'est pas encore enclenchée.
Oui. Voilà. Et pourquoi, est-ce que ça coince?
Ça doit s'enclencher dans les mois qui viennent.
Oui. Mais c'est quoi? C'est toujours les relations difficiles
entre... C'est le calendrier politique, et notamment le fait que l'Allemagne va rentrer dans une période d'élection. Donc je crois que c'est ça le sujet, c'est tout simplement ça.
Oui, il y aura donc en février, donc effectivement pas forcément de décision. Avant de parler de Safran, mais ça fera le lien, parce qu'on sait que vous devez choisir justement dans ce premier semestre 2025 le lieu d'implantation de votre quatrième usine de freins à carbone. Une question, est-ce que le Made in France, pour les industriels, est-ce que le Made in France, est-ce que c'est encore possible? Ou est-ce que quelque part, c'est une illusion ou un rêve de politique?
Alors la réponse est oui, c'est encore possible. La meilleure preuve, c'est qu'on a pris en début d'année la décision d'investir en France dans une nouvelle fonderie d'aubes de turbines. Ce sont des pièces critiques du moteur. Et on a décidé d'investir à Rennes. Donc c'est un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros que l'on fera à Rennes et qui va au total représenter environ 500 emplois. Donc vous voyez, c'est possible. On peut tout à fait, effectivement, encore aujourd'hui, prendre des décisions d'investissement en France. Maintenant, vous me parlez de la quatrième usine de freins carbone. Alors c'est vrai qu'on est leader mondial dans le domaine des freins carbone. On a aujourd'hui 3 usines dans le monde. Une en France, l'usine historique de Villeurbanne, une aux États-Unis et une en Malaisie, en Asie. Et on doit effectivement, on a besoin pour répondre à la demande du marché de maintenant prendre la décision de créer une quatrième usine carbone. Mmh. Là, la question, c'est l'énergie et le coût de l'énergie, parce que l'énergie représente 40% du coût de fabrication des freins carbone. Et donc, ce qui va conditionner le choix de la localisation, ça sera le prix de l'énergie. Ce qu'on souhaite, c'est tout ça, ce sont des critères très simples. On souhaite un prix de l'électricité compétitif. On souhaite de l'électricité décarbonée et avec une électricité, une puissance délivrée qui soit stable, hydraulique ou nucléaire. Et enfin, on veut avoir une visibilité sur les prix pendant une période de 10 ans. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé en Europe dans la période entre 2019 et 2023, c'est une très très forte volatilité des prix de l'électricité. Je vous rappelle qu'entre 2023 et 2019, l'électricité, le prix de l'électricité a été multiplié par 5. Ouais. Et donc c'est contre cette volatilité qu'on souhaite se protéger. Donc 3 critères, très simples, avec un choix qui va s'orienter soit sur la France, soit sur l'Amérique du Nord.
Est-ce que c'est lié au fait que vous puissiez signer un fameux accord, ce fameux accord avec EDF ? Ben qui vous engage.
C'est la question de l'accord avec EDF qui va être clé, parce que la clé, encore une fois...
C'est ça, la clé de l'installation de votre usine, c'est l'accord ou pas avec EDF. Et là, vous en êtes où ?
Sachant qu'aujourd'hui, on va prendre la décision au premier semestre
2025. Des discussions avec EDF.
On a engagé des discussions avec EDF. On n'a pas encore...
On sait qu'elles sont très difficiles, hein. On en parle souvent ici.
Difficiles, évidemment. Ouais. Donc, on se reverra en début d'année. À mon niveau et à celui de Luc Raymond. Et c'est à ce moment-là qu'on prendra la décision de localisation, sachant qu'on a déjà des offres très compétitives au Canada et dans le nord-ouest des États-Unis.
Dans l'Oregon. Parce que là, on voit tous les chiffres le montrent. Là, c'est la ruée vers l'ouest. Hein, en fait, on voit bien qu'il y a un effet Trump absolument gigantesque, mais qui existait déjà un peu avant avec l'IRA, qui attire beaucoup d'entreprises et notamment beaucoup d'industriels européens et français. Et vous ?
Alors, c'est pas lié à l'élection de Monsieur Trump.
Non, c'est l'IRA avant.
C'est tout simplement lié à la comparaison du prix de l'énergie. En Europe versus les États-Unis, où effectivement on a une offre d'énergie qui peut être décarbonée, qui est compétitive et avec une très bonne visibilité sur une période de 5 à 10 ans.
La probabilité que ça soit en France, c'est quoi ? C'est 50-50 ?
Oh, je vais pas vous donner de chiffres. Mais
on n'est pas forcément perdant. Je
vais pas vous donner de chiffres.
Non.
Voilà.
Vous réfléchissez vraiment, votre décision est prise.
Il y a 3 options. D'accord. Les 3 options sont sur la table.
Et ça dépend,
encore une
monsieur...
fois, c'est vraiment... l'électricité qui fera la différence. Donc la ruée vers l'ouest, c'est tout simplement, si vous voulez, sur des enjeux où le prix de l'énergie compte énormément, effectivement, aujourd'hui, l'Amérique du Nord a un avantage par rapport à l'Europe. C'est indéniable.
Et tous les industriels nous le disent. Ce qui est quand même paradoxal lorsqu'on voit toute l'énergie nucléaire qu'on a. Vous avez présenté, vous avez votre journée investisseur, comme on dit, jeudi. Et alors là, vous avez été un coup de tabac en bourse, parce que visiblement, pourtant, vous avez des belles perspectives jusqu'en 2028. Mais alors, ils vous ont trouvé d'une prudence, beaucoup trop prudent, Olivier Andriès. C'est votre nature, on vous connaît. Mais est-ce que vous n'avez pas été trop prudent ? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rattraper le coup ?
Alors, il faut prendre un pas de recul, si vous voulez bien,
pas trop loin, mais on peut.
Ce qui s'est passé dans cette journée, parce que d'abord, il y avait une forte attente, et le cours de bourse avait fortement augmenté le mois qui a précédé notre journée investisseur. Et donc, à l'issue de la journée, on est revenu au cours qui était le nôtre au 1er novembre 2024.
Ouais. Ce cours, quand on voit l'évolution de votre cours, pour ceux qui nous regardent.
Ce cours a augmenté de plus de 30% depuis le début de l'année, ce qui nous met sur le podium du CAC 40 en termes d'augmentation du cours de bourse par rapport au début de l'année. Alors effectivement...
Qu'est-ce que vous pouvez dire là ce soir pour rassurer les gens, pour les investisseurs, pour vous dire, mais attendez, croyez dans le safran.
Nous sommes sur des marchés qui croissent plus vite que le PIB mondial. L'aéronautique civile a un taux de croissance tel qu'on le voit sur les 20 prochaines années de 3,7% par an. Et donc, on a une visibilité sur l'aéronautique civile qui est absolument exceptionnelle, avec 34 500 avions qui seront commandés dans les 20 années qui viennent, selon nos prévisions. Et dans le domaine de la défense, il y a effectivement, compte tenu de la situation géopolitique mondiale, il y a effectivement une augmentation des dépenses de défense aussi.
Oui.
Donc, on est situé sur des marchés qui sont en croissance, en réalité, et avec de belles perspectives, puisque nous avons nous-mêmes indiqué que notre prévision, c'était une augmentation du chiffre d'affaires d'environ 10% par an sur les prochaines années, avec une augmentation du résultat, de la profitabilité, qui est encore supérieure.
Alors pourquoi on ne vous a pas compris ?
Parce que les attentes des analystes étaient encore plus fortes.
Ouais. Et là, vous pouvez
la raison.
Vous voulez pas les corriger un peu ?
Les attentes étaient encore plus fortes.
D'accord,
on ne va pas changer nos prévisions par rapport à ce que nous avons annoncé en semaine dernière.
Est-ce que les relations avec l'un de vos principaux clients, en l'occurrence Airbus et son président Guillaume Faury, directeur général, est-ce qu'elles se sont apaisées ? Parce que très souvent, Guillaume Faury, ici même, disait, mais attendez, on a un problème de cadence, et derrière, ça ne suit pas, notamment les moteurs, notamment donc Safran, puisque vous êtes le principal, avec votre filiale, vous êtes votre moteur LEAP, le principal fournisseur des Airbus. Ils disent, ben non, mais Safran, c'est simple, ils préfèrent en fait faire de l'entretien des avions, parce que ça lui rapporte plus d'argent que de nous fournir des moteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est moins le cas ?
Alors, la réalité, c'est qu'on a deux clients. On a les clients avionneurs, qui effectivement ont des ambitions de monter en cadence et qu'il nous faut suivre. Et puis, on a des clients compagnies aériennes qui doivent faire voler leurs avions et qui ont besoin de moteurs pour faire voler leurs avions. Donc, on a ces deux clients. Et donc, effectivement, on a un marché de livraison d'équipements neufs aux avionneurs et on a un marché de maintenance parce que les compagnies aériennes sont en demande de maintenance. Alors, ce sont deux marchés qui sont très différents.
Ouais. Mais il y en a qui vous rapportent plus, non ? La
réalité, c'est que cette année, effectivement, on a été amené, parce qu'on a été confronté à des goulets d'étranglement sur certaines pièces, on a été amené à revoir à la baisse nos livraisons de moteurs neufs. Donc effectivement, ça a été un peu juste, mais ces dernières semaines, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, on a été amené à prioriser un peu Airbus par rapport, je dirais, aux besoins des compagnies aériennes, justement pour soutenir la capacité d'Airbus à livrer des avions qu'ils ont besoin de livrer d'ici la fin de l'année.
Ça sera, in fine, ça fera combien de moteurs à la fin de l'année ?
Nous avons prédit que l'on livrerait en fin d'année moins 10% de moteurs par rapport à ce qu'on a livré l'an passé. Donc c'est effectivement un retrait parce qu'on a été confronté à une difficulté sur des pièces spécifiques du moteur.
Un mot très 30 secondes sur Ariane Group. Donc là, il y a le lancement. Ariane. Oui, parce que vous êtes co-actionnaire, on va le rappeler. Le lancement de Vega C donc, là, a été réussi après celui d'Ariane 7. Donc ça y est, maintenant, Ariane Group a deux lanceurs. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a Elon Musk avec SpaceX qui fait exploser tout. Et puis, le nouveau administrateur de la NASA est aussi un des meilleurs copains d'Elon Musk, du reste, qui s'appelle Jared Isaacman. Il a 41 ans, il va faire aussi exploser tout. Ariane Group, avec toutes les lenteurs peut-être de l'Union Européenne, peut-être des actionnaires, est-ce que vous ne dites pas il faut tout balayer pour essayer de suivre ?
Alors écoutez, d'abord, il y a deux très bonnes nouvelles cette année. Le lancement réussi premier vol d'Ariane 6, vous l'avez dit, avec beaucoup de retours positifs des opérateurs de satellites et de constellations, et puis le lancement de Vega C qui a eu lieu semaine dernière. En fait, le marché a besoin d'une concurrence. Donc le marché est très content qu'il y ait un Ariane 6 qui puisse faire concurrence à SpaceX et que SpaceX ne soit pas en situation de monopole. Je rappelle d'ailleurs que l'un des plus beaux contrats qui a été signé par Ariane Group au sujet pour Ariane 6, c'est avec Monsieur Bezos sur la constellation Kuiper qui nous a commandé 18 lancements.
D'accord.
Voilà, donc il y a une dynamique qui est repartie avec ces lancements qui ont été réussis. Il y a maintenant une montée en cadence qui est à réussir, mais aujourd'hui, le marché, la demande est très forte.
Et donc, c'est pour ça qu'il faut mieux être plus nombreux, même s'ils vont peut-être plus vite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Olivier Andriès, directeur général de Safran. Tout de suite, on retrouve Guillaume Paul.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business, les experts BFM.
Allez, ils sont là nos experts à BFM à 18h36 pour refaire l'actu. Déjà, première partie jusqu'à 19h, Edwige Chevrillon est resté. Rebonsoir Edwige.
Rebonsoir Guillaume.
Emmanuel Le Chypre est avec nous. Mathieu Pecheberti va nous rejoindre dans un instant. Est-il encore opportun d'ouvrir une usine en France? C'est un petit peu notre discussion pendant une dizaine de minutes. On parlera de l'étude Trendéo qui est partie ce matin, qui est riche d'enseignements. D'abord, parce que Olivier Andriès, le patron de Safran, nous en a donné une illustration. Il dit, moi j'ai une usine de frein carbone à ouvrir, une quatrième usine dans le monde, et j'hésite visiblement.
Il hésite, voilà. Ça fait longtemps qu'il hésite. Il avait choisi le site de Fezin et puis le maire écolo qui a dit non, on ne veut pas. Donc, donc il a dit j'ai déjà ouvert une usine à Rennes, une fonderie, mais là, il va choisir, il a plusieurs propositions, ferme, a-t-il ajouté, au Québec, aux États-Unis, et puis une, effectivement, en France. Alors je lui ai posé la question en disant qu'est-ce qui va vous faire choisir? Il dit c'est simple, c'est le coût de l'énergie et l'engagement sur le long terme. Donc suivez mon regard. Et il l'a dit, du reste, moi c'est la première fois que j'entends ça. Il l'a dit, tout dépend de ma réunion là en janvier avec Luc Rémont, le président d'EDF, pour savoir sur quoi il s'engage. Parce que vous savez, il y a les fameux accords industriels
avec les grands,
qui sont en discussion, qui sont visiblement ont du mal à aboutir. Et le ministre de l'Industrie avait, le précédent, le ministre démissionnaire de l'Industrie, Marc Ferracci, avait essayé de pousser un petit peu EDF à négocier. On avait parlé avec Mathieu Pecheberti. Mais là, il dit clairement, tout dépend en fait de ma réunion avec Luc Rémont, pour savoir sur quoi il s'engage, sur le long terme, et surtout sur quel prix. Parce qu'il dit, moi de l'autre côté, aux États-Unis, je sais où je vais.
Parce qu'il dit, il dit, c'est un prix de l'électricité compétitif, décarboné, ça peut être décarboné aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pense, et avec de la visibilité. Il dit, c'est 40% du prix de production, moins les freins carbone. Donc l'électricité, l'énergie, ça va être déterminant, évidemment.
Comme pour toute l'industrie, c'est un peu toute la difficulté. Et là, pour l'instant, c'est beaucoup, beaucoup moins cher aux États-Unis.
Oui, et tout ça nous renvoie donc à cette étude Trendéo qui est sortie ce matin. C'est la 8e édition qui nous dit quoi? Que pour la première fois en 2024 en France, on va fermer des usines. C'est-à-dire, si vous prenez le solde des usines qui ouvrent et des usines qui ferment, on sera sur un solde négatif. Ça n'était pas arrivé depuis 5 ans. Écoutez, tiens, d'ailleurs, David Couster, le créateur et géant de Trendo, qui disait très bien quelles étaient les raisons de ce désamour cette année. Écoutez.
Beaucoup d'investissements d'entreprises européennes aussi qui sont attirés aux États-Unis par la faiblesse du coût de l'énergie, puisque les États-Unis sont maintenant exportateurs nets de pétrole. Et par les différents plans d'aide de subventions à l'industrie.
Voilà, il a tout dit, David Kousker, ce matin sur BFM Business. Emmanuel, c'est la première fois en 5 ans que ce solde va être négatif en France, finalement. Et quand il était positif, ce n'était pas non plus extravagant, il faut le dire clairement, Emmanuel. Quand on voit les
chiffres. Je pense qu'on a eu une conjonction favorable depuis 2017, qui effectivement a été un mini-choc de compétitivité favorable. Alors, il y avait plusieurs raisons. Il y avait la politique économique menée en France, qui a été incontestablement considéré comme pro-business. Et puis, on avait un différentiel, finalement, avec d'autres voisins européens qui étaient favorables. Or, l'attractivité, c'est aussi une question de comparaison. Et c'est vrai qu'on avait nos voisins britanniques qui étaient pris dans leur Brexit, les Allemands, dont on voyait bien qu'ils étaient quand même en perte de vitesse. Et donc, ça a été favorable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de subir un véritable choc de compétitivité à l'envers. Et là, il s'agit plus de regarder la cour de récréation européenne avec les Français, les Allemands, les Anglais. La réalité, c'est qu'à l'échelle mondiale, l'Europe subit un véritable choc de compétitivité négatif, parce que quand vous mettez tout bout à bout, si vous voulez, et que vous voulez lancer du business, soit vous avez le choix de monter à bord de la deux chevaux européenne, soit vous montez à bord du gros 4x4 américain. Et c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire que quand vous prenez tous les points de comparaison aujourd'hui, Et c'est ça qui est vraiment problématique. Quand vous prenez tous les points de comparaison aujourd'hui, il n'y en a aucun qui est favorable.
Si, il y en a un.
Non, il y en a aucun. Si. Bah, je termine. Il n'y en a aucun qui est favorable à l'Europe si on se place du point de vue du chef d'entreprise et du business. Vous avez effectivement.
Il les a résumés, le patron de Safran.
L'énergie,
tout à l'heure, on en parle.
L'énergie, on l'a dit. Oui. Voilà. La productivité, elle est faible. Elle est beaucoup plus forte aux États-Unis. Tout ce qui est environnement, réglementaire, législatif, vous voyez bien que l'Europe surréglemente aujourd'hui. Regardez quand même, et ça c'est pas neutre dans la perte d'attractivité, le recul de la compétitivité de nos banques qui sont complètement étouffées par les régulateurs. Bien, les banques européennes aujourd'hui ne peuvent plus rien faire par rapport aux banques américaines. Quand vous prenez la taille des marchés de capitaux, quand vous prenez la monnaie, etc. Je ne sais pas quel argument va évoquer Edwige, mais franchement le différentiel de compétitivité aujourd'hui, il est incroyablement favorable.
Alors, où est-ce qu'il est notre avantage compétitif ?
Je suis d'accord avec vous, Emmanuel. Je dis juste c'est que le marché européen est quand même le plus gros marché de consommateurs. Donc, c'est un point quand même très important. C'est pour ça qu'il attire quand même des Chinois, il attire beaucoup d'industriels et d'Américains, et puis il attire aussi des Européens. En revanche, c'est vrai qu'on a des obstacles qu'on avait l'impression qu'on avait réussi un peu à les raboter.
Oui.
Et puis là, de tous les coups, ils reviennent absolument d'une manière
spectaculaire. C'est très bien qu'on soit un débouché. Ils n'ont pas besoin de venir produire chez nous pour nous vendre leurs produits. Surtout qu'en plus, quand ils arrivent en Europe, il faut quand même voir ça. Vous arrivez sur un marché sur lequel vous avez 27 législations différentes sur le droit du travail, sur lequel vous avez, sur les télécoms, etc., vous avez 4 opérateurs par pays, vous avez 4 grandes banques par pays, c'est un marché qui est extrêmement morcelé. C'est le cheval de bataille de Enrico Letta, d'ailleurs, qui
dit
il faudrait inventer un 28e droit du commerce qui se superpose.
Ce chiffre qui montre à quel point les choses s'accélèrent. L'an dernier, 33% des montants investis par les industriels européens, ça concernait des projets sur le sol européen. Cette année, 33%, c'était 47% l'année dernière, avec une grosse direction vers la Russie. Vous voyez à quel point, en l'espace de 12 mois...
Parce qu'à la guerre en Ukraine, ça...
Mais bien sûr, évidemment, en l'espace de 12 mois, on a changé complètement d'environnement.
Il y a, dans la dimension, dans la longue liste des points de comparaison favorables aux États-Unis aujourd'hui, il y en a un qu'il faut aussi ajouter, et Edwige a raison, c'est la donne géopolitique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... au-delà de tout ce qu'on a dit sur les freins à l'investissement en Europe, vous avez des incertitudes géopolitiques qui font qu'il est plus sûr, sans doute aujourd'hui, d'aller bâtir une usine aux États-Unis que d'aller bâtir une usine dans un des pays de l'Union européenne.
Il va falloir que DF fasse un petit effort, Mathieu Pechberti, pour donner des gages à Safran et à tous les grands groupes, les grands consommateurs d'énergie, pour que ça reste en France, pour que Safran fasse son usine en France et pas dans le Nord-Ouest.
Ça, je pense que ce sont des paroles politiques qui ont été beaucoup prononcées. On sait au sein des différents gouvernements, enfin en tout cas le dernier ou de l'avant-dernier, on va dire, de Gabriel Attal plutôt. Et je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de faits qui, en tout cas, participent à cette politique, parce que vous savez, EDF est dans une négociation de gré à gré, un contre un, comme on dit, avec les entreprises. Patron de Safran l'a dit, il y aura des accords qui seront faits au cas par cas, mais il n'y aura pas de grandes...
Il y en a combien, Mathieu, pour le moment ?
Aucun.
Pour les grandes entreprises qui ont besoin, effectivement, il y en a une vingtaine. Il y a peut-être un enjeu de 30.
Rien n'est signé.
Il y a eu des accords de signer avec des centaines de petites entreprises.
Non, avec des grands groupes les plus énergivores, on va dire.
Il n'y en a clairement pas eu.
Mais ça veut dire, Mathieu, qu'il faut être très clair. À un moment, il faudra que l'État, dont on peut rappeler qu'il est quand même actionnaire de DL,
nationalisé
à 100%, il y a un moment où c'est très simple. Il faudra choisir entre EDF et toutes les grosses usines qui consomment beaucoup d'énergie.
Bah oui, mais vous avez besoin d'un EDF fort aussi pour relancer le nucléaire et tutti quanti. Hein,
oui, mais à ce moment-là, vous n'aurez plus les électrons intensifs. Ouais.
Bah là, on a un exemple, c'est la première fois que j'entends ça, très clair. Hein. D'ailleurs, patron de Safran,
c'est
il dit
quand même spectaculaire.
On a une réunion,
ça dépendra.
Enfin, j'ai une réunion au plus haut sommet, ça veut dire Luc Rémont et moi. Je vais voir ce qu'il me propose et moi je prendrai ma décision en fonction de ce qu'il me propose. Voilà.
Il y aura sûrement des efforts au cas par cas et précisément pour le cas de Safran est intéressant, d'autant plus qu'ils ont
au moins une, mais sinon des usines aux États-Unis. Ce que ne veut pas EDF, et ça le gouvernement suit l'entreprise là-dessus, c'est de grands accords globaux avec un prix, on va dire, imposé par l'État, encadré, etc. Il veut continuer à avoir des marges de manœuvre financières et commerciales, et dans ce cas précis, pouvoir continuer à prendre ses décisions contrat par contrat et éviter d'avoir une régulation forte. Et sur ce point-là, il est quand même entré, il est du bon côté de la négociation, puisque en tout cas, ça lui permet de dire au gouvernement en contrepartie, si vous me laissez faire, moi je pourrais continuer à investir et en gros je vous foutrai la paix, je viendrai pas demander de l'argent.
Oui, mais enfin il y a un moment,
il y a un jeu qui est compliqué.
Mais très compliqué parce que je veux dire un des atouts de la France c'est quand même d'avoir de l'énergie décarbonée, le nucléaire, et on est en train de s'aborder.
Oui, mais ce que tout le monde confond depuis des années.
Je suis d'accord, doit investir, mais au nom c'est de sacrifier.
Ce que tout le monde confond depuis des années, c'est que l'énergie décarbonée en France, c'est le nucléaire, puisque les énergies renouvelables ne sont pas assez développées. Or, le nucléaire, qui plus est le nouveau nucléaire qui va arriver dans les prochaines années, sera cher.
Donc, il faudra faire des choix. C'est ce qu'on dit, en gros. Voilà. Bien, voilà pour l'industrie française. L'autre sujet, on a quelques minutes pour en parler. Mathieu, on va rester avec vous. C'est cet AG de Vivendi. Il n'y a pas eu de suspense. 97% des actionnaires ont voté pour la scission de Vivendi, qui va être éparpillée en 4 blocs. 4 entités toutes recotées en bourse, dont Canal+ à Londres et Havas à Amsterdam, et ce, dès lundi prochain. C'est ça, Mathieu, finalement.
Oui, exactement. Et c'était effectivement l'enjeu principal, ou les deux enjeux principaux, sont effectivement les cotations en bourse. Les retours même en bourse de Canal+, non pas la bourse de Paris, mais la bourse de Londres pour la chaîne. Et puis Havas, qui était également coté à la bourse de Paris il y a quelques années maintenant, et qui va revenir en bourse, mais cette fois à Amsterdam. Mais donc, il y avait beaucoup de critiques de la part d'actionnaires minoritaires contre ces cotations en bourse à l'étranger, dans des places financières où Vivendi et le groupe Bolloré, qui est le premier actionnaire de Vivendi et va se retrouver premier actionnaire d'Havas et de Canal, va pouvoir avoir une souplesse réglementaire, je vais le dire comme ça, qu'il n'aurait pas eu à la Bourse de Paris. Et donc, ces actionnaires minoritaires critiquaient cette opération, mais la plupart, et l'essentiel même, a donc tout de même validé cette scission, puisqu'elle a été votée à 97%.
Bah, oui.
Je termine.
C'est pas si mauvais que ça, quand même.
Je termine juste, parce que je savais bien qu'Emmanuel allait sauter sur l'occasion. C'est que il y a eu des actionnaires minoritaires dont on a pas mal parlé ici, le fonds activiste Siam ou le fonds Fitrust, qui n'est pas un actionnaire activiste puisqu'il investit dans toutes les boîtes du CAC 40, mais il y a eu des sociétés de conseil aux investisseurs. Vous savez, il y a tous les grands gestionnaires de fonds mondiaux, Amundi, BlackRock, etc., ne regardent pas toutes les assemblées générales et ils laissent des sociétés de conseil faire le boulot à leur place. Et ces sociétés de conseil, hein, il y en a notamment deux qui sont très connues dans le monde anglo-saxon, il y a ISS et Glass Lewis.
On dit oui tous les deux.
On fait des pages entières de littérature pour dire à quel point ces opérations étaient contraires aux actionnaires minoritaires. Mais elles n'ont pas appelé à voter contre, puisqu'elles savent que si elles votent contre, les investisseurs qui les payent pour ça diront « mais nous, on veut pas se mettre à dos, c'est très important ». Les directions de ces entreprises. Donc, en fait, finalement, à la fin, vous votez toujours oui. Donc, il y a des critiques. Ils n'ont pas envie de voter pour, mais à la fin, ils votent pour.
Alors,
c'est important.
Est-ce que vous vous émouvez, Edwige, Emmanuel, du fait qu'on laisse deux fleurons partir, aller se faire coter? Même si les sièges sociaux et fiscaux restent en France, il n'y a pas de sujet, mais qu'on voit Londres accueillir Canal+ et Havas Amsterdam, finalement. Certains disent que c'est une mauvaise pub pour la place de financière de Paris.
Voilà. C'est pas une bonne pub, on va pas.
Non, c'est pas une bonne pub.
C'est clair, le fait que Canal aille à Londres et reste pas ici, puisque donc Amsterdam, on peut dire ça fait partie d'Euronext, après tout ça reste dans le giron d'Euronext. Et pour la bourse, la place financière de Paris, c'est un très mauvais signal qui est envoyé. Et puis surtout, c'est que Vivendi reste tout petit, et limite il est même plus au CAC 40, ça c'est sûr.
Il va sortir,
mais donc il se fait sortir et puis
c'est normal.
Voilà, c'est la fin de Vivendi en bourse. Alors après, est-ce que pour le groupe Vivendi, c'est peut-être une manière de jouer sur tous les tableaux et tous les tableaux financiers, donc in fine de rapporter peut-être un peu plus d'argent. Bon, mais c'est clairement la fin de Vivendi, ça ne peut pas dire le contraire.
Qu'est-ce que ça nous dit finalement? Certains disent, voyez, si on avait des fonds de pension capables de rivaliser avec ces grandes places, on n'en serait pas là. Voyez, si la réglementation sur les droits de vote multiples était différente, on n'en serait pas là. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça, Emmanuel, finalement?
En l'occurrence, je ne suis pas sûr que sur ce cas-là, ce serait vraiment un facteur déterminant. Sur le fond, vous avez raison, bien sûr. Sur le fond, vous avez raison. Et il y a quand même un moment aussi, où il faudra se poser la question. Mais ça, je pense que c'est un sujet qui est véritablement explosif et il faudra bien s'interroger sur la dette publique colossale qu'on a et le matelas d'épargne colossal qui dort en France.
Oui,
et je rappelle que certains pays, les Pays-Bas par exemple, n'ont pas hésité il y a quelques années à matraquer fiscalement les contribuables pour les inciter à arrêter d'épargner sur leur assurance vie, etc. Donc ça, effectivement, je pense que on va, puisqu'on n'arrive pas à flécher l'épargne et à inciter à aller vers les placements en actions, etc.
Et c'est pas faux d'avoir lancé des produits.
Je pense que ce qui nous pend au nez, c'est qu'on va y être incité avec une épée dans le dos, vous voyez, avec des mesures fiscales qui vont être telles qu'elles vont décourager les placements pépères. Ça c'est fort possible. Après, sur Vivendi. Bah, à Vivendi, la logique, elle est implacable. On sait très bien que vous aviez une décote de conglomérat qui était quand même très importante.
20-30%, oui.
Vous donnez à chaque entité. En plus, la localisation des sièges, elle se défend. Globalement.
Mais ça reste à Paris, ça reste à Paris.
Non, mais je veux dire, la localisation des sièges,
par contre. La cotation.
Canal, on ne voit pas très bien pourquoi Londres.
Parce que l'essentiel du business de Canal est à l'étranger maintenant.
Voilà, c'est surtout une affaire de réglementation.
Il y a une réglementation.
On ne peut pas être obligé de lancer nos PA, c'est ça en gros.
Parce qu'à la bourse d'Amsterdam, vous avez une réglementation qui est bien plus souple qu'à la bourse de Paris. Et en Grande-Bretagne, qui est en plus, évidemment, en dehors de l'Union européenne, Vincent Bolloré a joué légalement, hein, complètement légalement, mais a joué d'une. C'est vraiment un cas d'école, une loi d'exception qui va lui permettre, en étant coté en bourse à Londres, de ne pas être soumis aux droits des OPA en France.
De pouvoir monter sans déclencher
d'OPA. Mais en étant aussi coté à Londres, de ne pas être soumis aux droits britanniques des OPA. Et donc, finalement, il va pouvoir continuer, s'il le souhaite et s'il le désire, à monter au capital sans lancer d'OPA. C'est pour ça que les actionnaires minoritaires hurlent.
C'est quand même une simple illustration, Mathieu, que notre sur-réglementation et notre sur-administration est quand même un handicap sérieux.
Bah, je sais pas, parce que le droit des minoritaires se défend aussi, pas que la cotation en bourse.
Mais on peut défendre le droit des minoritaires sans contraindre autant ces grandes entreprises.
Non, mais il y a quand même des règles qui ne sont pas contournées à aucun moment. Non, mais je parle pas
dire
de contourner.
Dire que c'est pas bien.
Non,
mais si, parce que c'est
un. Je dis pas que c'est pas bien.
Des minoritaires, c'est pas moral, c'est pas.
Non. Moi, je mets pas de morale là-dedans. C'est un état de fait. Il se joue de ces réglementations. Moi, je mets aucune morale là-dedans. Il ne faut pas dire que
c'est l'optimisme, c'est normal.
Non, mais les minoritaires ont le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord.
Et ben, ils ne sont que minoritaires.
Bon, allez, point.
Et ben, donc, à ce moment-là, mais donc, on sait avec qui on joue.
Et les vaches sont bien gardées. Edwige, pour qu'on.
Oui, alors, les vaches, non. En revanche, je pense qu'il y a une réflexion sur la place financière de Paris qu'il faudra mener parce que. On voit bien que il y a la question de cotation, même s'il restera à côté à Paris, à la cotation de Total. L'autre jour, j'étais avec un autre grand patron qui me dit, attendez, si il est administrateur d'une grosse ETI qui est dans la tech. Il me dit, c'est sûr que si on va la coter à New York, ça fait 1 milliard de plus de valorisation.
Voilà.
Donc, il y a un problème de valorisation de la Bourse de Paris. Ça, il faudra quand même un jour se pencher dessus pour voir qu'est-ce qu'on peut faire.
Voilà pour cet AG de Vivendi qui était aux Folies Bergères, donc cet après-midi à Paris.
Propriété du groupe Lagardère.
Absolument.
Donc, du groupe Vivendi.
Rappeler
qu'Arnaud Lagardère a changé de boutique.
Allez, 18h54, vue sur le web, c'est Sylvain Trinel, Jean-Yves Stekenko qui est avec nous, éclairage comme tous les soirs sur un article de bfmbusiness.com. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir.
On voulait vous donner, vous savez, des nouvelles des salariés d'Ubisoft qui s'étaient mis en grève il y a 2 ans, ça avait fait beaucoup causer. Apparemment, ils vont recommencer, Sylvain.
Oui, effectivement, et c'est prévu pour le 12 décembre, comme d'autres professions, d'ailleurs, les salariés de l'éditeur français Ubisoft, ils seront en grève pour protester contre les changements des règles concernant le télétravail notamment, parce que ça avait poussé notamment des salariés à déménager loin des studios, et là en fait on va les obliger à revenir en présentiel au moins 3 fois par semaine. La situation elle est évidemment explosive, au point qu'un nouveau communiqué est paru aujourd'hui, il est d'ailleurs signé par les 3 principaux syndicats au sein d'Ubisoft et il fait état d'un dialogue de sourds et d'une situation préoccupante. Fin de citation. Selon les représentants du personnel, 25% des salariés pourraient même quitter l'entreprise avec la fin du télétravail, ce qui est pas rien quand même pour Ubisoft. Mais la situation de l'entreprise, que l'on sait très préoccupante, on a déjà beaucoup parlé dans Good Evening Business notamment, crée aussi des risques psychosociaux, notamment des détresses psychologiques, d'autant que les négociations n'auraient visiblement aucune marge de manœuvre avec la direction.
Et comment ça va chez Ubisoft au fait?
Ça c'est la question prenant plusieurs milliards. Après une nouvelle alerte sur les résultats financiers, le report sur surprise de l'un de ses plus gros jeux à 2025. Ubisoft fait aujourd'hui face à une guerre entre ses principaux actionnaires. Selon les informations de Bloomberg, le géant chinois Tencent, qui détient une partie de l'éditeur français, hein, on le sait, pèserait de tout son poids pour pousser la famille Guillemot, majoritaire dans l'actionnariat d'Ubisoft, à vendre. Ouais. Et Guillemot, bah, quant à eux, ils cherchent plutôt une solution de ce qu'on appelle le buy-out, en l'occurrence. C'est un système où ils garderaient un peu le contrôle d'Ubisoft tout en sortant Ubisoft de la cotation boursière. Bon, tout ça, c'est encore assez flou et encore davantage d'ailleurs pour les salariés. Il devient désormais essentiel que la prochaine super production de l'éditeur Assassin's Creed Shadow fonctionne, sous peine de se prendre un sévère retour de bâton.
Ça serait pas le premier, effectivement. 25% des salariés qui sont prêts à démissionner si on revient sur le télétravail.
Est-ce que c'est au Canada, là?
Chez Ubisoft, en France?
C'est Ubisoft en France.
En France,
en
France.
Parce que, Ubisoft, c'est surtout au Canada maintenant.
Alors, quand même, il y a plusieurs milliers de salariés en France, notamment à Bordeaux, à Paris, à Montpellier, à Annecy. Mais effectivement, ça fait beaucoup de gens. Ouais. Sachant qu'au Canada, là où effectivement c'est la deuxième force d'Ubisoft, les règles du télétravail sont beaucoup plus restreintes qu'en France.
C'est ma question. Ouais. Ouais, juste amusant pour faire le lien, c'est quand même Ubisoft, les seuls, les Guillemot, la famille Guillemot, c'est ceux qui ont réussi à faire plier Vincent Bolloré. Hein.
Oui,
c'est vrai, à l'époque.
Comme quoi c'est
grâce à une culture d'entreprise qui était bien meilleure qu'aujourd'hui.
Absolument, absolument. 25% des salariés qui dites si on revient sur le télétravail, je démissionne. C'est quand même... C'est un télétravail chevillé au corps ces jours-là finalement. C'est ça que ça prouve.
Non, mais ça vous... J'avais déménagé.
Il y a deux choses. Je pense que dans ces métiers-là, il y a peut-être une hypersensibilité à l'autonomie, à l'indépendance qui est plus forte. Et puis je pense que objectivement, ce sont des métiers sur lesquels ceux qui pensent ou qui disent qu'ils vont démissionner ne sont pas très inquiets sur leur avenir futur.
Leur capacité à retrouver derrière.
Du travail, c'est sûr.
C'est à lire en tout cas, plus d'autres, bien d'autres articles sur bfmbusiness.com. Merci Sylvain, merci de passer nous voir. Merci Emmanuel, à très vite. Edwige, merci, on se retrouve demain.
Demain, 18h10. C'est le patron de la Caisse des dépôts qui sera là. Bah tiens, lui, je lui poserai la question en disant s'il voit la récession. Olivier Andriès de Safran ne la voit pas. Patrick Martin, vous savez, a parlé d'une légère récession ce week-end. Je lui demanderai si lui, il le voit. Puis notamment, on parlera d'immobilier, bien sûr.
Absolument. C'est demain, donc 18h10, le patron de la Caisse des dépôts sur BFM Business. 18h57, nous, on revient dans un instant, le journal. Puis nos experts qui reviennent, 19h15. Et ce, jusqu'à 20h, bien sûr. À tout de suite.